enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Le partage d'aujourd'hui, ça va être... Le titre va être « Nos bonnes habitudes ». J'ai déjà fait dans d'autres occasions une énumération peut-être de tous nos défauts et de toutes les choses qui peuvent changer dans notre vie. Mais je voudrais vous montrer maintenant comment nous pouvons recevoir de bonnes choses qui vont durer et porter du fruit, de bonnes habitudes. Je fais juste un petit rappel. J'avais une fois fait un enseignement qui s'intitulait « Mon attitude détermine mon futur ». Vous vous en rappelez de ça ? Vous pouvez le dire avec moi. Mon attitude détermine mon futur. Mais mes habitudes déterminent mon présent. Mes habitudes déterminent mon présent. Mais mon présent, mon quotidien, est fait de l'ensemble des choses dont j'ai pris l'habitude. Les choses extraordinaires dans notre quotidien sont relativement rares. Très peu de gens vivent une vie d'aventure où tous les jours, il y a plein de choses neuves. La plupart d'entre nous, nous avons 90 ou 95% de notre journée, de notre temps, qui est rempli par des tâches habituelles, des choses que nous avons fait ou vu faire et que nous reproduisons. On appelle ça aussi, dans certains milieux, on appelle ça des automatismes. C'est comme l'autre jour, on sortait de notre maison, on était déjà dans la voiture, et je me posais la question... Est-ce que j'ai fermé la porte de ma maison à clé? Et donc, c'est des choses qu'on n'y prend pas garde. On sort et derrière soi, on tourne la clé, puis on rentre dans la voiture. Et après, on se pose la question, mais est-ce que j'ai fermé ou est-ce que je n'ai pas fermé? Et ça, c'est une illustration de beaucoup de choses comme ça qui se passent dans notre quotidien. Alors, j'ai dit, si Dieu peut changer certaines choses dans notre vie, soit dans une réunion, on voit la puissance de Dieu qui agit, on est touché, on dit « Oui, Seigneur, fais ceci, fais cela ». S'il veut vraiment pouvoir agir en profondeur, il faut agir au niveau de ces 90-95% de notre vie qui sont des automatismes. Ainsi, si on développe cet aspect, alors nous verrons Dieu agir beaucoup plus puissamment. Comment se créer une habitude? On commence pour une première fois, puis on fait de manière répétitive, et puis ça devient une manière régulière. Des fois, alors on le fait même sans y penser. J'aimerais aujourd'hui reprendre avec vous le passage de Romains chapitre 1. Vous pouvez ouvrir votre Bible. Et je voudrais qu'on voit ici les trois points qui vont nous amener à une vraie transformation. Romains 1. Je lis au verset 14. L'apôtre Paul dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Verset 15. « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc retenez bien ces trois aspects. Premièrement, je me dois. Deuxièmement, j'ai un vif désir. Troisièmement, l'évangile est une puissance pour celui qui croit. Trois choses. Je me dois, j'ai un vif désir et l'évangile est une puissance. Les trois choses qui vont intervenir pour que de bonnes transformations se produisent en nous, de bonnes habitudes. Premièrement, je me dois. Je me dois, c'est réaliser que nous avons une responsabilité. Pourquoi est-ce que je dois devenir un meilleur chrétien aujourd'hui que j'étais hier et que demain je dois être un meilleur chrétien demain que j'étais aujourd'hui? Parce que je me dois. Je me dois à ceux qui sont à l'extérieur et qui regardent l'état de l'Église. Deuxièmement, pourquoi j'ai un vif désir. Le vif désir, ça se place sur un autre niveau que je me dois. Ça, c'est quelque chose qui jaillit spontanément de notre cœur parce que j'aime Dieu, que je désire lui plaire et que je veux le laisser changer quelque chose dans ma vie. Et troisièmement, l'évangile est une puissance. Comment donc se débarrasser de mauvaises habitudes, de péchés? C'est en y mettant quelque chose qui vient de Dieu, qui prend la place. Or, l'évangile, on peut dire, qu'est-ce que c'est? C'est le grand échange. J'avais dit, en fait, cette petite astuce, si nous voulons changer nos mauvaises habitudes, il faut l'échanger. L'échanger. L'habitude, il faut l'échanger. Or, quelle est la chose qui nous montre l'œuvre de Jésus? C'est cet échange qu'il y a eu à la croix. C'est décrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, un des passages les plus importants pour nous pour comprendre qui nous sommes en Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il n'est pas dit si quelqu'un est chrétien. Parce que beaucoup de gens portent le nom de chrétien, mais ce n'est que un chrétien sociologique. Parce que vous êtes dans un pays chrétien, parce que votre famille était chrétienne. Mais ici, il est dit si quelqu'un est en Christ. Ça veut dire s'il a permis à Christ, celui qui est oint et qui a l'onction, d'agir dans sa vie pour opérer cette transformation. Alors que se passe-t-il? Alors, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. C'est dans cette fonction d'ambassadeur que réside le « je me dois ». Un ambassadeur, c'est un fonctionnaire du plus haut rang qui a des obligations. Il est tenu à un devoir de réserve et il n'a pas le droit de dire autre chose que ceux qui l'envoient. Si on lui pose une question sur la politique de son pays, il ne peut pas dire « moi, l'ambassadeur, je pense ceci, cela ». Il doit dire « la position de notre gouvernement est que… » et il le dit. Si nous sommes des ambassadeurs pour Christ, nous ne devrions pas avoir tellement de chrétiens qui disent « moi je crois que, et moi je pense que, et voilà mon avis, et voilà mon opinion ». Nous devrions dire « moi je n'ai pas à avoir d'opinion personnelle en dehors de celle du royaume qui m'envoie comme ambassadeur. Et mon roi, Jésus, voilà ce qu'il pense de telle situation, parce que je suis son ambassadeur ». Donc ça c'est la dimension de « je me dois ». Comme si Dieu exhortait par nous, et là il y a cette dimension du vif désir. Nous vous en supplions au nom de Christ. Vous voyez, être ambassadeur, donc avoir une fonction du plus haut rang, et s'abaisser à dire à quelqu'un, je t'en supplie. Quelqu'un qui supplie, c'est normalement une position de mendiant, quelqu'un qui a un besoin. Mais à l'image de Jésus qui... de roi des rois, seigneur des seigneurs, fils de Dieu qu'il était, il s'est humilié pour en gagner le maximum. Ceux qui sont ses disciples, ils font la même chose. Nous pourrions exercer avec autorité, avec puissance dans ce monde et dire, ben, comme les disciples voulaient le faire à un moment, on ne veut pas de Jésus alors que le feu du ciel tombe sur ces gens. Mais au contraire, nous comprenons l'esprit qui a animé Jésus, l'esprit de compassion, et nous disons, nous vous en supplions au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous renonçons à nos privilèges pour en gagner le maximum. Et en quoi consiste donc cette réconciliation? Verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et ça, c'est une notion extraordinaire, même parmi la chrétienté dans son grand ensemble. Beaucoup de gens sont trop souvent encore sous la condamnation, sous cette culpabilité, dans cette situation où ils osent à peine lever les yeux vers le ciel, vers là où on se représente Dieu. Ce n'est pas être orgueilleux ou avoir de l'arrogance. Nous nous rappelons des évangiles quand il est dit qu'il y avait ce publicain qui se frappait la poitrine, qui n'osait à peine lever les yeux parce qu'il était sous une conviction de péché. Donc il y a un temps pour pleurer sur ses péchés, et puis il y a un temps pour être délivré et de comprendre que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et alors on lève les yeux et on est heureux d'être dans la présence de Dieu sans sentiment de honte, ni culpabilité, ni condamnation. Donc l'évangile est une puissance. Est une puissance pour prendre n'importe quel pécheur, même le pire qui soit, et de le transformer. Nous parlons des fois, on met des titres, on dit le grand apôtre Paul. Premièrement, il paraît qu'il n'était pas très grand de taille. Et deuxièmement, plus il avançait dans sa marche spirituelle, plus il se diminuait lui-même. À un moment, premièrement, il n'ose même pas d'abord s'appeler apôtre. Il dit « je suis appelé à être apôtre ». Ensuite, peu à peu, il gagne de l'assurance et il reconnaît son ministère. Et il dit « apôtre ». À un moment, et il dit, mais je ne devrais même pas avoir le droit de porter ce titre parce que j'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. Et vers la fin de sa vie, il ne dit pas, je suis le plus petit des apôtres. Il dit, je suis le moindre de tous les saints. Ça veut dire que plus il grandissait dans sa communion avec Dieu, plus il se diminuait à ses propres yeux. Ce n'est pas une fausse humilité. C'est de comprendre la puissance et la grandeur de Dieu. Donc, l'évangile est une puissance pour opérer cet échange et ce remplacement dans notre vie. Même avec votre meilleure volonté humaine, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de beaucoup de choses. Donc, il faut d'abord que vous ayez compris. Dieu va opérer avec puissance ce changement qu'il y a lieu. Alors, rappelons-nous que ce que nous tolérons dans notre vie, nous ne pouvons pas le changer. Nous ne pouvons pas avoir un regard trop complaisant sur nous-mêmes, acceptable, les autres ne sont pas pires, etc. Nous devons avoir un regard honnête, de dire « Non Seigneur, change mon cœur comme on le chante des fois. » Ou ce cœur que nous utilisons souvent, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas chanté, mais on va peut-être le reprendre aussi, « Te ressembler Jésus ». Combien de personnes, et je ne veux juger personne, mais combien de personnes je voyais chanter « Te ressembler Jésus » et c'était évident que pas un instant elle ne pensait réellement laisser Dieu opérer des transformations. Parce qu'on chante quelque chose mais ça n'avait pas de signification pour eux. C'était juste, on peut dire, un vœu pieux. Mais au contraire, nous devrions rechanter de tout notre cœur ces chants-là. « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême » dit le chant. C'est un chant extraordinaire, fantastique au niveau des paroles. Donc, ayons cette conscience que nous devons opérer des changements dans notre vie avec l'aide de Dieu parce que nous nous devons à ceux qui ont besoin de voir qu'est-ce que c'est un chrétien. Ensuite, désirez que la lumière de Dieu éclaire notre vie. Jésus a dit... Il n'a pas dit, plutôt, que quand la lumière vient, tout le monde est content et dit « bravo, c'est fantastique ». Il a dit « quand la lumière vient, les hommes ne l'ont pas reçue, parce que la lumière montre ce qu'il y a dans les cœurs ». Il a dit « je suis la lumière du monde, mais beaucoup n'en veulent pas ». Voilà la réalité. Mais nous, qu'est-ce que nous désirons? C'est notre vif désir qu'au contraire, la lumière de Dieu vienne dans notre cœur, et en chasse les ténèbres. Et comme j'utilise souvent cette illustration, si je suis dans une pièce sombre, je n'ai pas besoin de chasser d'abord les ténèbres pour que la lumière puisse rentrer. Nous amenons la lumière et les ténèbres reculent. C'est la façon dont Dieu voulait que ça se passe. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Prenons maintenant ensemble Galates 5 au verset 13. Ce principe que je veux vous encourager à pratiquer dans votre vie. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quelle est l'œuvre de la religion? L'œuvre de la religion, c'est dresser une liste des choses qu'il faut faire et ne faut pas faire. Donc, on peut faire aussi une liste évangélique des choses qu'il ne faut pas faire et des choses qu'il faut faire. À ce moment-là, on va, si on est religieux, faire tous nos efforts pour ne plus faire ce qui est sur la liste de ce qu'il ne faut pas faire. Et certains ont pris les versets qui suivent comme une liste évangélique. Au verset 19, voilà, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc certains ont pris cette liste et ont dit, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Un chrétien comme il faut ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Et dans cette liste, on a même trié entre grand péché et petit péché. Mais vous remarquez que nous sommes peut-être rapides à dénoncer idolâtrie ou magie, en disant « Ah oui, ça c'est vraiment inacceptable !» Mais nous sommes prêts à tolérer d'autres choses dans le corps de Christ, comme par exemple, querelle, jalousie, dispute, division. Le fait que le corps de Christ soit morcelé en 1000 morceaux est acceptable aux yeux de beaucoup. Je ne parle pas ici d'un œcuménisme où on veut être tous unis, etc., mais de reconnaître la valeur du corps. Que si quelqu'un confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est mon frère en Christ. Et je dois faire attention à la façon dont je parle de lui. Parce que lorsque les chrétiens ont été persécutés, par Paul en particulier, quand il s'appelait encore Saul, Jésus est venu à lui, est apparu, et il n'est pas dit « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu persécutes ces gens ?» Il a dit « Pourquoi est-ce que tu me persécutes ?» Jésus le prend très personnellement quand quelqu'un s'en prend à un de ses enfants. D'accord? Donc, je me rappelle toujours que Jim Caseman avait un moment des querelles avec son épouse il y a bien longtemps. Et donc, il s'était imaginé que quand ils se disputent et qu'ils ne sont pas en accord sur un point, c'était lui, du côté de Dieu, qui avait raison, contre son épouse, jusqu'au jour où vraiment il a eu en lui cette pensée qu'il a identifiée comme venant du Saint-Esprit. Il a dit, attention, c'est ma fille, ne touche pas à ma fille. Et tout à coup, il a dit, il a eu cette révélation que ce n'était plus lui avec Dieu contre elle, mais que Dieu pouvait être de l'autre côté, parce que Dieu va toujours se placer du côté de celui qui est agressé. Il est le défenseur. Le défenseur, ça porte un autre nom au tribunal, c'est l'avocat. Il est l'avocat. Et il n'est pas l'avocat de le procureur qui cherche à condamner, et il est l'avocat de la défense par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, prenons garde. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut accepter tout et n'importe quoi, et dire tout le monde a raison et tout va bien. Mais, donc, prenons garde à la façon dont nous gérons ces choses. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se débarrasser de ces œuvres de la chair pour plaire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici pour les faire? Il nous dit « marcher selon l'Esprit ». Laissez-vous remplir de l'Esprit. Nourrissez-vous et laissez-vous habiter par les bonnes choses de Dieu. La première bonne chose de Dieu, c'est sa parole, bien sûr. Nous voulons viser la perfection. La Bible nous dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez saints comme il est saint. » Et Philippiens 2, on va lire aussi ce passage, contient ce verset important. « C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. » S'il n'y avait pas ce verset dans la Bible, peut-être il y a ailleurs la même notion, mais ça serait difficile des fois. Parce que ça voudrait dire que beaucoup de choses dépendent de notre force de caractère. Et des fois, nous sommes faibles. Jésus l'a dit même. Il a dit, l'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Mais là où nous sommes faibles, la puissance de Dieu peut se manifester pour qu'il produise en nous le vouloir et le faire, il est dit, selon son bon plaisir. Ça veut dire vouloir selon son bon plaisir. Ça ne veut pas dire, des fois il plaît à Dieu de nous donner le vouloir et le faire, et des fois il ne lui plaît pas, il nous laisse nous débrouiller. Selon son bon plaisir, ça veut dire nous voulons et nous faisons selon le plaisir de Dieu. Parce qu'on veut lui faire plaisir, puisqu'on l'aime. Vous savez, quand on aime vraiment, les choses deviennent simples. C'est quand l'amour est absent que ça devient compliqué. Alors, il faut que beaucoup de règlements remplacent. Mais si on aime, si on est motivé pour quelque chose, je pense même des choses simples de la vie sociale, de la vie même associative. Des fois, il y a des règlements intérieurs, il y a des statuts, il y a des... Tout cela sont des garde-fous pour des gens qui risquent de mener la vie dure au groupe. Mais quand tout le monde veut poursuivre un même but, il n'y a plus tous ces problèmes. Voyons encore l'aspect de l'échange, des bonnes habitudes. C'est le nouveau manteau qui remplace le vieux. Quand on a un vieux manteau qui est tout usé et quelqu'un vous en propose un nouveau à la place, on peut comprendre que c'est la bonne décision d'accepter le cadeau et d'enlever le vieux pour se revêtir de nouveau. C'est ce que la Bible dit aussi dans « Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez l'homme nouveau ». Comment allez-vous revêtir l'homme nouveau? Eh bien, c'est tous les jours en vous remplissant de cet exemple de Jésus. Nos bonnes habitudes. On comprend que si un sportif veut accéder à la victoire, il doit faire un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir une hygiène de vie. Et il doit manger de la bonne façon, il doit faire de l'exercice, il doit se reposer, et il doit le faire régulièrement et non au moment de l'épreuve, de la compétition. C'est trop tard. Et pour le chrétien, c'est la même chose. On ne peut pas attendre d'être dans la difficulté pour vouloir maintenant se saisir de la victoire. Souvent, ce n'est pas possible. On est trop enfoncé. Et certains sont dans cette situation, et ce message n'est pas pour eux maintenant, parce que pour le moment, ils ne peuvent même pas. Ça ne sert à rien de dire « prends de bonnes habitudes ». Quand quelqu'un est en train de se noyer, je crois que je l'ai déjà dit, c'est pas à ce moment-là qu'il faut lui donner des leçons de natation. Il faut alors le sortir de l'eau. Après, on peut lui apprendre pour que la prochaine fois, quand il rentrera dans l'eau, il ne va pas se noyer. Mais donc, faisons les mêmes choses. La foi vient de ce qu'on entend. On a parlé de sportif. La foi est comme un muscle. Le muscle qui ne travaille pas, peu à peu s'atrophie et il devient faible. La foi est comme un muscle. La foi vient de ce qu'on entend, veut dire ce qu'on entend d'une façon habituelle. Pas juste une parole. Nous ne sommes pas nés avec. Nous avons reçu des choses de Dieu, mais on a quelque chose à développer. Comment les bonnes habitudes viennent-elles? C'est comme j'ai dit, on commence une première fois, on fait de manière répétitive, ensuite on le fait régulièrement. Et puis, il y a un moment où il faut tenir ferme. Tenir ferme est essentiel. Commencer une chose, c'est bien. Continuer, c'est mieux. Et à un moment donné, on a tendance à vouloir lâcher. Et même des fois, on veut lâcher avant d'avoir mis en route cette habitude. Moi, je me rappelle que nous avions ici, pendant mon enfance, il y avait ce qu'on appelle une piscine d'été, qui n'est ouverte que les mois d'été quand il fait bien chaud. Alors, pour nous, aller à la piscine, on n'allait pas dans des piscines couvertes, chauffées, etc. En hiver, on allait seulement pendant les mois d'été. Mais chaque fois au mois de juin, quand ça ouvrait de nouveau et qu'on commençait de nouveau à nager, les premiers jours étaient difficiles. Le souffle était court et les muscles n'étaient plus habitués et il fallait de nouveau faire un petit entraînement. Et je pense aussi aux gens qui font peut-être une activité sportive et puis souvent les associations, les clubs s'arrêtent en été. Pour eux, c'est l'inverse. C'est la reprise en septembre que quelqu'un qui est bien entraîné eh bien, il se retrouve à avoir de nouveau des courbatures et des moments difficiles au moment de la reprise. Et je crois que spirituellement, on peut avoir les mêmes problèmes. On peut avoir de l'essoufflement ou des courbatures, selon qu'on n'est pas bien entraîné. Alors, vous vous rendez compte que une fois que vous avez pris l'habitude de certaines choses, c'est comme pour le sportif, ça devient plus facile. Si vous ouvrez tous les jours votre Bible et vous nourrissez de la parole de Dieu, c'est plus facile. Plus vous allez la lire, plus ça sera facile. Plus vous allez prier, plus ça sera facile d'être en communion avec Dieu. Si vous interrompez un moment, ça sera de nouveau plus difficile. C'est pourquoi il y a des choses que nous devons faire régulièrement. Et c'est pourquoi il y a cette exhortation de Jésus. Si vous demeurez en moi, restez d'une façon continuelle. Prenez la décision de commencer si ce n'est pas encore fait, mais ensuite soyez bien assurés de continuer. Donc c'est dans Jean 15, si vous demeurez en moi. Josué 1,8 qu'on connaît bien aussi dit que cette parole, il dit le livre de la loi, que cette parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. S'éloigner, ça veut dire qu'à un moment elle est près de ta bouche, mais je choisis qu'elle s'éloigne de nouveau. C'est pourquoi continuer et demeurer avec elle. Et il est dit dans la bouche, pas juste à l'intérieur de moi, mais parce que la parole se prononce, se proclame. Ce n'est pas autrement. Elle se proclame et elle se prononce. Quand je dis tenir ferme, qu'est-ce qui nous permet de tenir ferme? Premièrement, Hébreux 12 nous dit la chose suivante. Il y a une récompense. Même pour Jésus, qu'est-ce qui lui a permis de tenir ferme? La parole de Dieu nous le dit ici. Ayant les regards sur Jésus, Hébreux 12, 2, qui suscite la foi et la mène à la perfection. D'autres versions disent Jésus est le chef et le consommateur de la foi. En échange de la joie qui lui était réservée. Remarquez bien de nouveau, échange. J'accepte une difficulté ou une souffrance passagère. Pourquoi? Parce que je sais qu'au bout, quelque chose m'est réservé. Je suis prêt à endurer des souffrances et des moments difficiles. L'apôtre Paul disait les légères afflictions du siècle présent. Légères afflictions, quand on voit toutes les persécutions qu'il a subies, les coups de fouet, les emprisonnements, tout ce qui lui est arrivé, il appelle ça des légères afflictions. Parce qu'il dit, rien ne saurait être comparé à cette souffrance et à la gloire à venir. La gloire à venir. Il y a déjà une gloire présente dont nous pouvons expérimenter certaines choses, mais il y a encore une gloire à venir. Et ici, il nous est dit, Jésus a souffert en échange de la joie qui lui était réservée. En échange de la joie. Je me répète, mais je voudrais que tout le monde ait bien compris. Jésus a mis mon message en pratique. Puisque lui a inspiré la parole de Dieu. Il a échangé sa souffrance contre la joie qui lui est réservée. Ça ne veut pas dire que pendant qu'il était crucifié, il était heureux. Il n'a pas rigolé sur la croix. D'accord? Il n'était pas hilar. Mais il y avait une force intérieure, la joie du Seigneur est votre force, une force intérieure qui est qu'il voyait au loin ce qui lui était réservé. La même attitude que Moïse, qui est un type de Christ. Il nous est dit, il n'a pas eu peur de Pharaon, parce qu'il a vu l'invisible. Il a vu déjà ce qui allait se passer. Et donc, il n'a pas eu peur de traverser, même si c'était difficile des fois, traverser ce qu'il a traversé, parce qu'il a vu le final. Avoir en vue la récompense nous permet de subir des moments difficiles. Reprenez à mon exemple de sportif. Quand j'ai pris l'exemple de la natation, je crois que c'est un des sports les plus ingrats qui soit. Faire pendant des heures et des heures et des heures des longueurs de bassin pour gagner un centième de seconde après 3 mois d'entraînement, moi j'ai dit il y a beaucoup d'ingratitude dans ce sport. Mais il y a des gens qui sont suffisamment motivés pour faire ça. et d'autres leçons pour d'autres choses. Et l'apôtre Paul ne disait pas autre chose. Il disait, ceux qui courent dans le stade, ils courent pour une couronne corruptible. Nous donc, courons pour une couronne incorruptible. Ayons en vue cette récompense et cette joie qui nous permet et qui nous pousse de supporter la difficulté de l'apprentissage. C'est vrai que ce n'est pas à chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu qu'il y a un torrent de révélation, qu'on est chaque fois submergé par la présence du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un expérimente ça tous les jours et à chaque fois, tant mieux pour lui. Mais la plupart du temps, les gens ne font pas cette expérience. Mais pourtant, on s'accroche. Pas parce qu'il y a un devoir religieux, j'espère. J'aimerais mieux que ce soit parce que nous avons en vue la récompense. Et la récompense, c'est le psaume 119-130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Quand tout à coup quelque chose dans la parole de Dieu s'illumine, ça y est, vous avez compris quelque chose, le Seigneur vous a montré quelque chose de nouveau, vous avez votre récompense. Vous savez qu'il est vivant, qu'il est réel, et c'est une joie. Qu'est-ce qui nous permet encore de persévérer? Hébreux 6, 9 à 12, encore c'est une illustration. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. C'est pour nous une grande récompense déjà de savoir que le meilleur n'est pas derrière nous, mais devant nous. Il y a des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Il est intéressant que travail et amour soient ensemble ici. Voyez, comme j'ai parlé de « je me dois et j'ai un vif désir ». Travail et amour ensemble. Pas juste travail et pas juste amour. Travail et amour pour son nom. C'est ce qui nous motive. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de vous, c'est mon vif désir, que chacun de vous, dites-le à votre voisin, c'est mon vif désir, que chacun d'entre vous, que toi, tu montres le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que tu ne te relâches pas, mais que tu imites ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Voilà encore une chose qui nous permet de persévérer et de tenir ferme. Un passage qu'on aurait pu prendre, mais vous le connaissez certainement, vous le relirez quand vous voudrez, c'est Éphésiens 6, versets 10 jusqu'à 18. Et vous verrez combien de fois il est dit, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Et il est dit à un moment, après avoir surmonté, tenez ferme. Même quand c'est passé, tenez ferme. Parce que des fois, il y a un moment difficile, on tient ferme. Et une fois qu'une épreuve est passée, on a tendance à se relâcher. On n'a pas le droit de se relâcher. Tenez ferme, mais rappelez-vous que c'est le travail de votre foi. C'est votre serviteur, la foi, qui doit faire l'œuvre. Et donc, héritez par la foi la persévérance, les promesses, en tenant ferme. Et qu'est-ce qui nous permet encore de persévérer? Combien de temps faut-il persévérer? Ici, il est dit, jusqu'à ce qu'on hérite. Et ailleurs, j'aimerais encore dire, jusqu'à ce que vous voyez le dos du diable. Il faut le voir de dos. Des fois, on a un face-à-face avec notre adversaire, mais moi, je préfère le voir de dos. Parce que Jacques 4, 7 nous dit, « Résistez au diable, il fuira loin de vous. » Quand quelqu'un est en fuite, il nous tourne le dos pour partir. Donc la Bible nous dit que si nous nous soumettons à Dieu, nous avons cette capacité de lui résister et de le voir fuir. Vous aimez le voir fuir? Dans les tentations de Jésus, il nous est dit qu'au bout d'un moment, le diable s'est lassé. Il est parti, il en avait assez, il a dit « ça marche pas, je vais essayer de nouveau un autre jour ». Il le laissa jusqu'à un moment plus favorable. Donc là, il y a des moments aussi où il relâche un peu. Et là, nous avons cette chose merveilleuse qui nous montre que nous pouvons être plus persévérants dans la foi que lui ne l'est dans l'épreuve. Il y a un moment où ce n'est pas nous qui nous relâchons, Mais c'est lui qui peut se relâcher et se décourager. C'est une bonne nouvelle. Et ce n'est pas juste pour faire une astuce, mais c'est vraiment la Bible qui nous le dit, qu'il y a un moment où, si nous tenons ferme dans la foi, c'est lui qui relâche et qui s'en va. Il nous est dit aussi que ce terme « il fuira » veut dire « partir comme pris de panique ». Parce qu'il sait depuis longtemps que dans le nom de Jésus, il, lui et les démons nous sont soumis. Mais seulement, il essaie toujours de faire ce bras de fer jusqu'au bout pour voir si on va continuer ou si on va s'arrêter. Parce que si on s'arrête, il peut reprendre le dessus. Mais s'il voit que nous tenons ferme, au bout d'un moment, il dit, là, je ne peux plus accéder. Et il cherchera ailleurs. Il cherchera quelqu'un d'autre à dévorer. Je termine par quelques exemples. Il y a des mauvaises habitudes qui ont des conséquences, de la même façon qu'une bonne habitude peut avoir des conséquences aussi, peut-être plus que nous ne pensons. Je pense maintenant au culte. Commencer le culte régulièrement en retard, voilà ce que ça produit. Nous disons que le culte commence à 10 heures et on commence effectivement à 10h15. Nous ne sommes pas maintenant en train de parler de choses de condamnation. Je suis simplement en train de vous dire, ça c'est un exemple de mauvaise habitude que l'Église de Jésus-Christ doit combattre. Parce que si nous disons une chose, le culte commence à 10h, et que nous faisons une autre chose, le culte commence effectivement toujours en retard, alors ça veut dire que notre parole s'affaiblit. Nos paroles ont peu de poids. Si je prêche la parole, comment est-ce que vous allez me croire? Si je vous dis de croire ce que je prêche, si vous ne pouvez pas me croire pour d'autres choses dans votre vie. Et ça, c'est un exemple précis, mais pour les prédicateurs aussi, ils ont des fois leurs mauvaises habitudes. Il y en a qui finissent le message je ne sais combien de fois. Je vais finir. Et donnez-moi encore 5 minutes et une demi-heure après, on y est toujours. Si c'est 5 minutes, alors c'est 5 minutes et il faut savoir s'arrêter. Et ça, c'est des exemples qu'on peut prendre, mais on pourrait en trouver des tas. Alors je vous charge pour des devoirs à la maison de trouver d'autres exemples. Vous savez, des fois on a du mal à s'en trouver peut-être pour soi-même, on se cherche des excuses. Alors allez chez quelqu'un et dites, qu'est-ce que je devrais changer d'après toi? On doit pouvoir commencer à se dire les choses. La Bible dit, si ton frère a péché, il reprend-le. Il ne faut pas avoir toujours peur de ne rien lui dire sous prétexte que peut-être il va se froisser ou mal prendre. Non. C'est un geste d'amour d'aller vers quelqu'un et dire, tu sais, si tu me permets, je peux demander, est-ce que tu me permets de parler dans ta vie? Mais tu devrais changer ça. Et moi, je crois que ce sera une bénédiction. Donc, ce sera une occasion pour que nos paroles deviennent plus crédibles et plus puissantes. Et la parole de Dieu va grandir en puissance aussi. Et des miracles vont grandir. La puissance est dans la régularité, dans l'attachement à Dieu et dans la fermeté. C'est pourquoi ça fait du bien d'avoir la bonne habitude de venir régulièrement au culte et de vous nourrir d'une bonne nourriture. Régulièrement, parce qu'on en a besoin régulièrement. Amen. Amen. Alléluia. Levons-nous. Rappelez-vous qu'une des motivations de l'Église primitive, comme nous le disons, c'était le retour de Jésus, pouvoir se présenter devant lui. Quand on est sur le point de perdre sa vie, ou quand on est sur le point de mourir, alors toutes les choses prennent une autre dimension. Mais nous n'avons pas besoin de mourir pour Dieu, vivons pour lui. Seigneur, nous voulons nous consacrer à toi tout entier maintenant. Change nos habitudes. Aide-nous à avoir ces bonnes habitudes de la prière, de la parole, de toute notre vie d'église, de toutes les bonnes choses que nous voyons dans ta parole. Comment nous pouvons manifester l'amour de Dieu. comment nous pouvons être attentifs aux besoins des uns et des autres. Merci Seigneur, je crois que des miracles vont avoir lieu dans les vies et dans les églises au nom de Jésus, lorsqu'elles mettront en pratique ces choses qui ont été dites. Amen.